Donc le cousin Louis, il était à Essaouira, il était établi au Maroc, et puis le cousin Anatole, il venait encore d'ailleurs, et puis le cousin je ne sais pas qui, etc. Donc en plus on me disait, ils sont caporniers. Caporniers, c'était passer le Cap Horn là-bas au bout du monde à la voile. Donc j'ai rêvé d'ailleurs, et en même temps, comme j'aime beaucoup les gens, c'est sincère et c'est spontané depuis toujours, non seulement à l'ailleurs, mais aux gens d'ailleurs.
Ouais.
Et le fait que ces gens aient d'autres allures que nos allures à nous me fascinait et ça m'a toujours rapproché de ces gens-là aussi.
Mais donc vous rêviez d'ailleurs, mais enfant, les landes miraculeuses bretonnes, tout de même, vous convenaient bien.
Oui, bien sûr. Mais comme je le dis dans ce petit texte, peut-être que l'ailleurs m'a saisi avant l'avant, si j'ose dire. Et l'avant a été aussi très présent et très vite présent. Très vite présent, et là aussi, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est un peu facile à comprendre. C'est le fait que dans cette Bretagne natale, donc où j'ai couru les plages et les landes, il y avait des restes archéologiques partout, et notamment ces grosses pierres qui ne peuvent pas vous échapper.
Les dolmens, les
Oui,
menhirs.
quand les restes archéologiques, comme la plupart d'entre eux, sont sous le sol, sont des restes enfouis, il faut quand même aller les chercher pour savoir qu'ils sont intéressants. Tandis que quand vous avez devant vous une grosse pierre, un gros menhir, des tonnes de granit dressés, quand même, ça vous surprend et ça vous agace.
Alors, est-ce que je peux rajouter deux hypothèses à cet
Allez-y.
intérêt pour l'avant, pour le passé lointain, Yves Coppens? Est-ce qu'il n'aurait pas été provoqué à la fois par le conservateur bienveillant d'un très étrange petit musée de la préhistoire qui se trouvait à Carnac? Et est-ce qu'il n'aurait pas non plus cet intérêt été provoqué par vos parents qui tout de même célébraient vos anniversaires quand vous étiez gamin en vous offrant des pièces de bronze de l'époque gallo-romaine? On n'est pas très loin du déterminisme là.
Tout ça, c'est vrai, mais pour que je cours au petit musée de Carnac, qui était tenu par ce monsieur Jacques, Jacq, qui était un monsieur passionné de préhistoire, il a fallu que j'aie la maladie avant, quand même. Pour aller voir le docteur, il faut être malade. Et là, j'avais donc l'archéologite, donc je suis allé voir ce monsieur. Et bien sûr que ce monsieur et son musée, tout ce qu'il m'a montré, et puis les monnaies romaines qu'il vendait, et puis l'achat par mes parents de ces monnaies romaines, tout ça a entraîné la suite. Mais je veux dire qu'il fallait que j'aie contracté quelque chose avant pour m'y rendre, quoi.
Un merveilleux,
Pour mettre les
miraculeux
choses dans l'ordre, pour
virus.
mettre les choses dans
Voilà,
l'ordre.
exactement.
Ouais.
Alors, on va mettre les choses dans l'ordre. Et on va justement évoquer, alors ça c'est follement romanesque, on va évoquer cette fameuse société savante qu'on appelait la société polymathique
C'est
et
chouette,
qui... Oh,
hein?
c'est magnifique. C'est mieux qu'Harry Potter. Société savante qui réunissait donc dans un petit château du XVe siècle toutes sortes, j'ai envie de dire, de professeurs nimbus, amateurs, mais très érudits, qui se passionnaient donc pour l'archéologie, la botanique, la zoologie, la géologie, la paléontologie. Comment avez-vous pu y entrer dans cette société polymathique à l'âge de seulement 10 ans?
Ben, c'est le fait que j'avais justement cette manie de l'archéologie, cette passion de l'archéologie. Et là, c'est un ami de mon grand-père, c'est vous dire l'âge, qui a été frappé par cette espèce de curieuse manie d'un petit garçon et qui m'a dit probablement un jour, je ne me rappelle pas, mais viens, je t'emmène dans une très belle société qui ne parle que de cela. Donc j'étais le plus heureux des petits garçons. Et donc je suis entré par la petite porte, parce que je n'étais pas membre, j'étais beaucoup trop jeune, dans cette fameuse société polymathique de Brumbière. Donc j'étais au milieu des vieux messieurs dont vous parlez,
Vous étiez leur mascotte,
quelques dames
j'imagine.
d'un certain âge aussi, hein, je ne veux pas
Oui.
faire de sexisme. Donc dans ce château, il y avait ces messieurs, il y avait une grande bibliothèque, il y avait un grand musée d'archéologie, il y avait un petit musée de sciences naturelles qui m'intéressait beaucoup moins. Et c'était un rêve, et comme j'ai eu accès tout jeune à ce monde, et puis accès tout jeune à ces salles, même lorsqu'il n'y avait personne, la concierge...
Oui, il paraît qu'on vous ouvrait le musée.
Oui, les concierges me connaissaient. Et il m'ouvrait le musée, et puis il savait bien que j'étais très calme et qu'il ne se passerait rien de grave. Et je passais peut-être beaucoup de temps en contemplation là-dedans, plus qu'en lecture. Mais j'étais heureux et rempli de cette atmosphère de sérénité, d'archéologie, de poussière, de vieux trucs, de vieux meubles, de vieux outils, de vieux objets.
Alors, Yves
Coppens,
hein,
c'est épouvantable,
non ? Non, je trouve ça absolument fascinant. C'est, paraît-il, à l'un des membres de cette société polymatique que vous devez donc, pour la première fois de votre vie, et à l'âge de 14 ans, de vous être retrouvé, alors cette fois-ci sur un vrai site archéologique, sur la côte orientale du golfe du Morbihan. Et comme pour ceux qui sont touchés par la foi, eh bien pour vous, il paraît que ce jour-là, ce fut de l'ordre de la révélation.
Il m'a emmené là-bas sur les côtes, au bord de la mer, sur une petite plage, une presqu'île. Hein. C'est-à-dire que cette presqu'île, elle était coupée des terres à marée haute. Et ouais. Il a fallu qu'on reste là-bas jusqu'à ce que la marée revienne. Donc sur une petite île, et sur cette plage, il y avait une falaise, une petite falaise. Et dans cette falaise, il y avait des quantités de poteries, petites poteries très fines, très rouges, très serrées, très... Ah, quelle image. Une image à la fois de couleur et de, je sais pas quoi vous dire, de retour du passé, de renvoi du passé dans le visage. Enfin, tout d'un coup, toute l'archéologie qui m'était si précieuse m'arrivait dans le nez et je pouvais...
Directement, frontalement.
Je pouvais en disposer. Oui, c'est ça. Absolument, oui.
Alors, juste avant de faire une très courte pause, Yves Coppens, il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser, à vous, le découvreur de Lucie. Trouver ce qui est le rêve et le but de tout archéologue et de tout paléontologue. Ça relève de la chance ? Ça relève de l'instinct ? Ou ça relève d'une meilleure lecture de ces banques de données ?
Un petit peu la lecture des banques de données, sûrement, parce qu'il y a de la raison quand même au départ, mais un petit peu de la chance aussi. Moi, j'ai connu des amis, des collègues très calés, très bons.
Qui ne trouvent jamais.
Qui ont fait du terrain, au pire que ça. Non seulement qu'ils ne trouvent pas, mais qu'ils laissent leur terrain, je dis bien. Et leur terrain est visité ensuite de manière tout à fait aléatoire par des gens qui viennent pour passer un week-end, quelque chose comme ça, et qui eux trouvent, oui. Ça, c'est effrayant. C'est ce qu'on appelle la poisse au cul verdâtre, comme vous savez.
Ah, on dit comme ça.
Oui, oui.
Bon,
c'est joli, non ?
N'est-ce pas ? Mais en tout cas, vous êtes un homme à la fois chanceux, qui a à la fois à l'instinct, et puis qui a l'excellente lecture de toutes ces banques de données. On fait une pause, on retrouve tout de suite Yves Coppens.
Europe 1, Stéphanie Loire.
Vous aimez l'amour à la plage ? Vous aimez les coquillages et les crustacés ? Vous aimez surfer, bronzer, chiller, danser ? Mais surtout, si vous aimez la musique, toutes les musiques. Je vous donne rendez-vous tous les soirs sur Europe 1 pour la version estivale de musique. Légendes et nouveaux talents, reprises, bande-son, live. Venez écouter toutes les musiques.
Musique par Stéphanie Loire.
S'écoute sur Europe 1 tous les soirs à partir de 20h et quand vous voulez sur votre appli.
À tes souhaits. Tu devrais passer chez Citroën.
Là, je vois pas le rapport.
Eh bien, chez Citroën, il m'a offert le traitement assainissant de ma climatisation. Et maintenant, je respire un air sain dans ma voiture.
Comme
tu dis.
En ce moment, chez Citroën, pour une révision ou un entretien de plus de 200€, le traitement assainissant climatisation est offert ainsi qu'un an d'assistance. Prenez rendez-vous en ligne. Détendez-vous. Citroën s'occupe de tout.
Citroën.
Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr.
Oh, l'été, qu'est-ce que c'est cool! Les enfants jouent avec leurs copains à l'ombre, mangent des glaces à l'ombre, font du vélo à l'ombre, lisent des BD à l'ombre ou bien ne font rien à l'ombre.
Oui, à l'ombre, parce que l'exposition aux UV et les coups de soleil, en particulier de l'enfance, sont responsables de la majorité des cancers de la peau. Alors en été, c'est cool de faire des tas de trucs, ou rien du tout. Mais le plus cool, c'est de les faire à l'ombre.
Pour éviter les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Sur Celui qu'on surnomme familièrement le père de Lucie, cet australopithèque de plus de 3 millions d'années, Yves Coppens donc, fait paraître aux éditions Odile Jacob, Origine de l'homme, origine d'un homme. Et cet après-midi, eh bien, c'est en sa compagnie qu'on fait cette balade absolument passionnante. Cher Yves Coppens, on évoquait à l'instant le bonheur de la découverte qui fait le sel de votre profession. Eh bien, l'anniversaire de vos 20 ans, vous l'avez passé, aux merveilles pour vous, dans la chambre sépulcrale, intacte et jamais violée, d'un dolmen construit, d'après le carbone, 4700 ans avant Jésus-Christ, sur une petite île du Finistère, ayant traversé presque 7 millénaires, ce tombeau. Vous étiez donc avec des amis étudiants, quand vous l'avez découvert, et il paraît que votre fascination fut telle que vous avez refusé de rentrer chez vous ce jour-là pour fêter vos 20 ans. Ce sont vos parents qui ont dû vous amener jusqu'à cette chambre sépulcrale, votre gâteau d'anniversaire, c'est vrai ?
Oui, absolument. Bah, vous savez, quand on est passionné, on n'a pas de raison de bouger d'un endroit où on est en train de faire des découvertes, ça va de soi. Alors, il se trouve que j'ai eu 20 ans en 54 et nous étions déjà allés avec ses amis sur ce terrain-là en 53. Et en 1953, on avait bien vu qu'il y avait une espèce de petite colline. Cette colline était appétissante pour des archéologues et on ne savait pas trop qu'en faire. On est retourné en 1954, donc cette année de mes 20 ans. On a osé faire un trou et on a fait un trou vers l'est parce que si c'était une sépulture, s'il se trouvait qu'il y avait une sépulture en dessous, l'entrée en général est plutôt du côté soleil levant. Donc on a fait un trou vers l'est et on est tombé dans une fosse. Et donc c'est moi qui ai désigné, comme le petit pousset, vous savez, c'est moi qui ai été désigné pour passer la porte. Et la porte, il n'y avait pas de porte, mais on a enlevé quelques pierres pour ne pas que ça me tombe sur la tête quand même. Et en effet, je suis rentré dans une salle, enfin imaginez, une salle de à peu près 4 à 5 mètres de diamètre, ronde, circulaire, à peu près 4 à 5 mètres de hauteur, parce que les pierres étaient en encorbellement, c'est-à-dire que la pierre du dessus dans la maçonnerie dépasse un petit peu la pierre du dessous, et petit à petit, ça fait une voûte, quoi, fait une voûte. Donc c'est très rare, les dolmens en général sont couverts par une grande dalle, et là, il n'y avait pas de grande dalle, mais toute une série de maçonneries, sans ciment d'ailleurs, hein, c'était des pierres sèches, mais les unes sur les autres, et puis qui se terminaient par une pierre fœtale, et l'ensemble faisait un tolos.
Il y avait objets dans cette chambre sépulcrale.
Oui, bien sûr. Alors au sol, il y avait deux planchers, il y avait deux dallages, en pierre aussi, bien sûr. Et c'est entre les deux dallages qu'on a trouvé des objets qui étaient soit des poteries, soit des pierres taillées, soit des pierres polies. Mais quand même, après la datation, on est à 7000 années, comme vous l'avez bien rappelé.
Alors cette année-là, donc, auréolée du succès de votre découverte, l'année de vos 20 ans donc, Yves Coppens, vous avez demandé à une grande figure de la paléontologie qui enseignait à la Sorbonne de vous diriger donc dans une soutenance de thèse. Et ce professeur, il a fait mieux parce qu'il vous a embarqué dans son équipe au musée d'histoire naturelle, au Jardin des Plantes, donc, où il était nommé. Et c'est là qu'à l'âge de seulement 23 ans, alors cette fois-ci vous avez eu le privilège fou de reconstituer votre premier mammouth, découvert en 1908 par un explorateur russe dans les glaces de la Nouvelle-Sibérie et qui depuis, j'ai envie de dire, vous attendait en morceaux dans des caisses. Il faut nous raconter l'aventure.
Oui, on peut aller le voir d'ailleurs. Oui, absolument. Il est monté là dans la grande galerie de paléontologie du muséum. Quand on arrive à lui, il est sur la droite, à côté d'un autre grand mammouth qui vient du Gard. Ben, il s'est trouvé que ayant l'intention de travailler et étant poussé à travailler par ce patron dont vous parlez sur les bêtes à trompe, sur les éléphants, les mammouths, les mastodontes, etc., je suis arrivé au Muséum national d'histoire naturelle. Et là, le patron charmant me dit « Écoutez, il y a sûrement quelque chose pour vous dans les caves parce que j'ai vu de gros os dans des caisses ». Et je suis allé voir les caisses en question. Les caisses avaient encore leurs inscriptions russes d'origine. Et ces caisses contenaient en effet des quantités d'ossements qui correspondaient aux ossements d'un petit mammouth. Et cette bête, elle avait été offerte au muséum en 1912. Moi, j'arrivais en 1956. Et je l'ai mise sur patte, si on peut dire.
Vous l'avez mise sur patte, Yves Coppens. Il s'agissait là, en fait, d'un puzzle géant extraordinaire.
Oui, le
Vous avez mis combien de temps à le reconstituer, ce mammouth ?
Le puzzle n'était pas très compliqué. Ah, plusieurs mois, peut-être une demi-année, parce qu'il a fallu bien sûr trier les vertèbres, il en manquait, trier les côtes, il en manquait beaucoup, rabouter certaines côtes cassées, reconstruire la queue qui n'était pas entière, refaire une défense parce qu'il n'y en avait qu'une et l'autre avait été probablement volée en cours de route. Quand même, c'était plusieurs kilos, enfin plusieurs dizaines de kilos d'ivoire. Et donc, ça a pris un petit peu de temps. Je dirais une demi-année, mais je ne me rappelle plus beaucoup. Et puis, construire aussi l'armature en ferraille pour que ça tienne. Hein. Vous avez beau mettre un os sur un autre, ça ne tient pas tout seul au bout d'un certain temps. La bête n'est pas là pour, avec ses muscles pour tenir debout. Donc, toute l'armature de ferraille. Alors, évidemment, j'ai fait ça avec des techniciens et des ingénieurs du laboratoire de paléontologie et avec qui d'ailleurs je me suis merveilleusement entendu, ça ne va pas vous étonner. Et donc on a mis cette bête sur pied et elle est somptueuse, allez la voir, qu'est-ce qu'elle est belle.
Je vais aller la voir. Alors ce fameux mammouth, Yves Coppens, dont l'exposition a fait l'objet à l'époque d'un vernissage très chic, il est devenu pour vous une incroyable carte de visite parce que par exemple il a donné l'idée tout de même à Alain Resnais, alors tout jeune cinéaste, de réaliser un court-métrage sur l'évolution biologique. Alors c'est pas Alain Resnais finalement qui a réalisé le film, mais le film il a bien vu le jour. Il s'est appelé « Images des mondes perdus ». C'est Michel Bouquet qui en a dit le texte. Vous étiez sur ce film à la fois le conseiller scientifique et puis l'assistant réalisateur. Et ce film, il a tout de même obtenu le prix de la Cinémathèque française. Est-ce que c'est vraiment ça qui a contribué à vous aider à, en fait, lancer des expéditions lointaines ? Vous êtes devenu célèbre soudain.
Oui, bien sûr. Mais c'était un peu latéral pour moi. Ceci dit, je n'ai jamais hésité à faire des pas de côté quand c'était possible. Et j'ai été absolument enchanté par ce pas de côté dans le cinéma. Il se trouvait que c'était du cinéma scientifique, puisque c'était un documentaire. C'était à l'époque où, dans les salles, vous savez, il y avait le long métrage, mais c'était toujours précédé par les actualités, d'abord le journal, et puis aussi un court métrage. Et le court-métrage, c'était entre 15 et 30 minutes, quelque chose de genre. Donc ce court-métrage sur Images des mondes perdus était un de ces courts-métrages liés à un long-métrage. Et j'ai été embarqué là-dedans par bonheur. J'ai trouvé ça formidable. J'ai passé plusieurs années là-dedans. Et comme j'ai été stagiaire sur quelques films pour mériter mon grade d'assistant, je suis devenu assistant à part entière. Puis j'ai reçu une lettre du CNRS, je peux le dire maintenant, je suis retraité, je m'en fiche. En gros, me demandant poliment, mais quand même fermement, de bien vouloir consacrer mon temps à mes recherches.
Oui, quand choisir même. En fait.
Oui, c'est ça, choisir. Donc j'ai choisi, il n'y avait pas de problème, hein. Je m'étais pas destiné du tout au cinéma. Mais j'ai dû finir mes films sous un pseudonyme. Alors j'étais Gaël Denis, ça je ne l'ai pas dit dans le livre, tant pis pour moi. Tant pis, maintenant c'est déclaré.
Donc, je vais vous appeler cher Gaël.
Oui, quand vous voyez dans des génériques Gaël Denis, c'est moi.
C'est Yves Coppens, mon invité cet après-midi, on fait une pause. On retrouve tout de suite Gaël Denis, Yves Coppens.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Alors, cher Yves Coppens, nous sommes le 20 janvier 1960 et vous êtes assis dans un DC-8 à Hélice qui va décoller de Paris, où il fait affreusement froid, pour atterrir au petit matin sur le continent fantasmé, un pays qui vous a jamais déçu, dites-vous, et que vous décrivez comme un régal de lumière, de parfums exacerbés, de saluts d'oiseaux et de percussions d'hommes, l'Afrique, bien sûr. En fait, vous avez été invité par deux géologues à venir reconnaître des sites au Tchad. Alors, le Tchad, je précise que vous y ferez 7 ans d'expédition, mais vous irez aussi aux frontières du Niger, vous irez jusqu'en Libye. Bon, aujourd'hui, ça doit être très dangereux d'être archéologue et paléontologue en Afrique, dans toutes ces contrées, en proie au terrorisme, à la radicalisation, aux prises d'otages, aux guérillas. Est-ce qu'il est encore possible de faire sereinement le métier comme vous l'avez fait ?
Il est toujours possible de faire ce métier sereinement, mais vous avez raison, il y a des régions qui nous sont désormais interdites, sauf risque réel. Alors, ce n'est pas tellement risque d'être tué, parce que ce risque-là, on le porte en permanence sur soi, en soi, quand on fait des tournées de ce genre. Mais c'est le risque de représenter de l'argent sur pied et du coup d'être capturé pour, en échange d'un certain nombre de dollars ou d'euros.
Alors, vous, Yves Coppens, vous arrivez donc au Tchad, en 1960, vous avez 25 ans. Et selon votre propre formule, vous avez un violent appétit de découverte. Donc, vous allez rapidement monter des expéditions avec une logistique impressionnante. Tout ce qu'il faut pour vivre en autarcie, dans des camps de base, je vous imagine en Indiana Jones, avec des camions, des tentes laboratoires. Il paraît qu'au total, vous aviez 50 personnes, des chercheurs, des guides, un cuisinier. Oui. Voilà. Mais qui finançait tout ça? C'était le CNRS?
Alors, moi, j'ai toujours fonctionné avec le CNRS comme base. Le CNRS comme base, mais comme on peut l'imaginer, le CNRS n'était pas suffisant. Donc, je courais les mécènes. Alors, les mécènes, c'était des fondations. Il y avait des fondations en France. Je cite, par exemple, la fondation Saint-Gervais-Polignac. Il y avait des fondations aux États-Unis. Je cite, par exemple, la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, qui était la bien nommée,
oui.
Et qui m'a aidé beaucoup. Enfin, ces deux-là m'ont aidé beaucoup. Je courais aussi les mécènes plus privés, du genre Air France. Air France m'a souvent offert des billets. Et d'autres mécènes comme les grandes compagnies qui travaillent le sol ou le sous-sol. Je pense à Total et d'autres grandes compagnies de recherche minière ou pétrolière.
Alors, là-bas, sur le sol africain, c'était l'aventure absolue. Quand on passe son temps à creuser, retourner les pierres, on peut faire des rencontres fâcheuses, comme par exemple avec des scorpions. J'ai appris que vous étiez passé maître dans l'art de soigner les piqûres mortelles de scorpions, parce que vraiment, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, en Afrique. Donc, vous savez soigner ces piqûres sans aucun sérum anti-venin. Il faut nous raconter l'astuce.
Ayant vécu beaucoup en brousse, j'ai rencontré beaucoup de médecins, et notamment des médecins de brousse. Il y en a une qui m'était très proche et très chère, c'était le docteur Anne Spury. Anne Spury était une bonne femme extraordinaire qui était flying doctor, c'est-à-dire qu'elle avait son petit avion, elle pilotait elle-même son petit avion, et puis elle partait en brousse soigner les gens. Et c'est elle qui m'a donné tous ces tuyaux. Alors il faut dire que les scorpions ne sont pas souvent mortels, mais quand même, ils peuvent rendre très malade. Et en effet, il n'y a pas de sérum contre les
scorpions. Ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas. Donc, on fait un tonique cardiaque pour soutenir le cœur, parce que ça secoue quand même un petit peu le cœur. Et puis, elle m'avait dit, il y a un truc, tu verras, tu peux essayer. C'est de brancher le malheureux piqué sur un des pôles de tes accumulateurs de voitures et lui envoyer des décharges. Quoi.
Non, c'est pas vrai. Alors, sur la batterie, par exemple,
la batterie,
d'une Jeep.
Oui, c'est ça, j'enlevais
les électrodes,
pôle,
les pôles.
Oui, et lui, le malheureux, se branchait sur ce pôle.
Donc il s'électrocutait,
ce qui était une douleur moindre que celle de la piqûre venimeuse. J'en ai vu quelques-uns comme ça, assis sur l'aile du camion, imaginez, et puis s'envoyant des décharges et sautant littéralement. Enfin, il disait, c'est pas agréable, mais si ça fait du bien, allons-y.
C'est un métier passionnant, Yves Coppens.
Bon, j'ai pas été piqué moi-même.
On revient à la paléontologie. Alors, un beau jour de 1974, au fin fond du désert éthiopien, eh bien voilà qu'enfin, vous tombez sur... on pourrait dire une préhumaine de 3 millions d'années, on va préciser, une australopithèque de 3 millions d'années, qui va bientôt voler la vedette à Ève et être considérée comme notre mère à tous, même si depuis on a trouvé plus âgée que cette fameuse Lucie baptisée ainsi en hommage à la chanson des Beatles. Et lorsqu'elle est mise à jour avec des soins infinis, Yves Coppens, ben vous réalisez que, en fait, cette découverte, elle est sans précédent, car 40% de son squelette est présent. Lucie mesure 1 mètre, elle devait peser aux alentours de 25 kilos. À quoi comprenez-vous qu'il s'agit bien d'une pré-humaine ?
Au fait, d'abord, que j'avais travaillé déjà beaucoup dans le sud du même pays, l'Éthiopie. Donc j'avais travaillé sur des couches géologiques tout à fait comparables, de même âge. Et les couches géologiques contenaient un certain nombre de fossiles que j'avais étudiés dans le sud, à 1000 km de là, et qui était tout à fait comparable dans ce nord-est, dans ce désert dont vous parlez. Donc je savais à quelle couche j'avais affaire, à quel âge j'avais affaire, et c'est comme les vins, vous savez, c'était un bon âge pour les hominidés. Donc dans ces couches-là et à cet âge-là, j'avais des chances de trouver des ancêtres de l'homme. Et donc, en 1974, le fait de trouver 52 morceaux déterminables d'un squelette de 206 ossements au total, ça a permis de reconstituer un peu l'être en entier, et puis de reconstituer sa silhouette, de le mettre sur pied, de voir à quoi il pouvait ressembler. Et à partir du moment où on l'avait mis sur pied, à partir du moment où on pouvait le dessiner, il est devenu vivant, en quelque sorte. Il est devenu vivant pour nous, il est devenu vivant pour le public, et Lucie est devenue un petit personnage attachant auquel... En gros, l'humanité entière s'est attachée. C'est quand même
mais alors,
quelque chose.
Oui, justement, l'humanité entière s'est attachée. Je voudrais savoir, Yves Coppens, pourquoi le monde entier a représenté Lucie comme la mère de l'humanité, alors que vous affirmez-vous que très probablement, elle n'est pas notre ancêtre.
Oui, mais il y a deux discours.
Pourquoi
elle est quand même... Enfin, avant nous, on a forcément... Avant l'homme, l'humain à proprement parler, on a forcément des ancêtres. Et comme on a un vivier d'ancêtres potentiels et que Lucie en fait partie, dire sur le plan public que Lucie est l'ancêtre, c'est pas tout à fait faux. Dire sur le plan scientifique que c'est pas elle précisément, mais un autre voisin...
C'est pas tout à fait faux non plus.
C'est pas tout à fait faux non plus. Oui, c'est ça. Oui.
Alors, une question avant de faire une pause, Yves Coppens. Lucie, elle est devenue l'héroïne de romans, d'essais, de films, comme celui de Luc Besson.
Oui,
Lucie, c'est un mythe aujourd'hui, alors que d'autres préhumains plus anciens ont été découverts depuis 1974, comme par exemple Toumaï, qui a 7 millions d'années, n'est-ce pas? Alors, comment vous expliquez que ce soit elle, Lucie, qui incarne la mémoire de l'humanité?
Je n'explique pas. Peut-être le fait qu'à l'époque où on l'a trouvé, on l'a bien promu. À l'époque où on l'a trouvé, c'était donc une petite bonne femme, un peu exotique, un peu reconstituée d'abord, un peu petite, pas très lourde, facile à approcher par sa taille, facile à approcher par son prénom, et qui était devenue un peu familière à la fois des publics, des gens, des enfants, etc. Et donc, elle est restée, et elle doit, je suppose, elle restera encore pour un certain temps, sinon, enfin, pour toujours, ça rime à rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, malgré ces découvertes beaucoup plus complètes, beaucoup plus anciennes, Lucie est...
Et la mémoire de l'humanité.
Elle grand symbole.
Elle repose où, Lucie? Au moment où nous parlons.
Dans un coffre chez elle, à Addis Abeba.
À Addis Abeba. On retrouve tout de suite Yves Coppens.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Yves Coppens, nous venons tous d'une seule et même espèce née dans les forêts africaines tropicales. Et je sais qu'avec humour, vous aimez préciser à vos interlocuteurs en fait qu'il n'existe pas de personnes blanches, seulement des personnes décolorées.
Oui, ça c'est un peu provocateur, mais ça signifie que notre origine, enfin semble, vous savez, la science... Elle propose des choses, mais elle propose des choses de plus en plus certaines au fur et à mesure où elle trouve des choses et puis que ces choses sont les mêmes. Donc petit à petit, on arrive à s'approcher d'une certaine vérité statistique, on peut dire ça comme ça. Donc il nous semble, à nous tous, paléontologues aujourd'hui, que l'origine de l'homme, les premiers humains, sont incontestablement tropicaux et africains. Et ce premier humain, il est dans une région extrêmement ensoleillée. Où
donc il y a une grosse production de mélanine.
C'est ça, où l'ensoleillement est tel qu'il faut un écran. Et l'écran, il est forcément coloré. Et cet écran, il permet la synthèse de la vitamine D, malgré sa protection à certains mauvais rayons du soleil. Lorsque nous sommes déployés...
Voilà. Lorsque l'homme, en fait, a migré hors d'Afrique,
oui, c'est ça.
Il y avait moins de soleil
oui.
sur les nouveaux continents oui. et en fait, il a pâli.
C'est-à-dire qu'il a pâli statistiquement ceux qui étaient moins colorés ont pu mieux fabriquer la vitamine, fameuse vitamine D qui était nécessaire. Ceux qui étaient trop colorés n'ont pas pu le faire parce que l'écran à ce moment-là était trop fort pour l'ensoleillement trop faible. Et ceux qui ont bénéficié de ce bon ensoleillement et de cette bonne couleur ont acquis évidemment meilleur droit de cité que les autres. D'où le gradient de décoloration qui va de l'Afrique tropicale jusqu'au Grand Nord. On dit à juste raison que les Lapons, par exemple, les gens du Grand Nord sont beaucoup plus clairs que les gens d'Afrique centrale, ouais, ça va de soi. Ouais.
Alors, on n'a retrouvé aucun brin d'ADN hein, sur Lucie, Lucie la préhumaine de 3 millions d'années que vous avez découverte en Afrique.
Pour le moment, oui.
Pour le moment, mais on cherche.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'ADN est une longue molécule très fragile. Et du même coup, au-delà de 500 000 ans, les spécialistes me disent aujourd'hui qu'on peut peut-être aller jusqu'à
1 million
d'années.
Oui.
Oui, 1 million d'années.
Oui.
Et donc, au-delà du million d'années, pour le moment, on n'a pas de bons résultats. Quoi.
Or, Lucie a 3 millions d'années. Donc,
pour l'instant,
on n'a pas de brin d'ADN de la jeune femme. Mais avec le clonage... la préhistoire pourrait renaître. Parce que, je parlais d'ADN parce que je sais que vous avez une collègue russe qui a fait pousser des plantes préhistoriques à partir de graines mises de côté par un écureuil il y a 30 000 ans.
Ouais, c'est chouette. Ouais.
C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Et elle a les plantes préhistoriques dans son laboratoire.
Ouais.
Alors bon, c'est de la botanique, mais sur du vivant, on serait aujourd'hui capable de cloner un mammouth ?
Bah écoutez, c'est bien sûr espéré, parce que les scientifiques sont comme ça. Et ce que l'on trouve, ce sont donc des brins d'ADN, puisque évidemment, l'ADN du mammouth, il a beau avoir 20 000, 30 000, 50 000 ans, lui aussi, il a un certain âge, donc l'ADN s'est aussi brisé depuis longtemps. Mais de brin en brin, on arrive petit à petit à reconstituer théoriquement l'ADN, et pas encore dans sa réalité, c'est-à-dire qu'il manque des passages, il manque des zones, et puis il y a des zones qui se recouvrent, c'est pas parfait.
Alors, Yves Coppens, l'humanité, de son début au 19e siècle de notre ère, elle est passée de quelques milliers à 1 milliard d'individus. Du 19e siècle à aujourd'hui, donc en 200 ans, cette humanité, elle est passée de 1 milliard à presque 8 milliards d'individus. Ça fait de la bousculade hein, sur cette terre dont les ressources s'appauvrissent. La suite, vous l'imaginez comment ?
Ben, j'en sais rien, hein, parce que je ne suis pas devin, mais... Quand je questionne les démographes, certains me disent que ça continue à grimper, c'est-à-dire que le nombre des humains augmente toujours et que l'exponentielle continue sa courbe. D'autres me disent que ça se tasse. Ça se tasse, ça veut dire qu'on arrive vers des paliers et on va peut-être se stabiliser autour de 8-10 milliards.
Donc ça, 8 ça ce sont les scientifiques optimistes.
8, oui, mais ils ont des instruments, enfin, ils ont des méthodes de mesure que je ne connais pas bien. Mais c'est intéressant quand même à prendre en considération. Ça voudrait dire que la Terre va supporter, va faire vivre, tenter de faire vivre une dizaine de milliards d'individus. Et une dizaine de milliards, c'est quand même pas mal pour une petite boule qui n'est pas très grosse.
On retrouve tout de suite Yves Coppens.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Cher Yves Coppens, vous qui êtes paléontologue, vous affirmez que la surface de notre planète est un terrain archéologique extraordinaire avec un nombre hallucinant de fragments appartenant aux générations de la préhistoire. Mais avec le réchauffement climatique qui fait fondre le permafrost qui abritait des trésors qui s'altèrent quand ils arrivent à l'air libre, et puis avec l'homme qui bétonne tous les continents, qu'est-ce qui va rester à découvrir en 2100, par exemple ? Le fond des océans ?
Oui, le fond des océans de toute manière, et le fond des océans d'autant plus que dans certaines régions du monde, par exemple la mer de Java, par exemple la Manche et la mer du Nord, par exemple le détroit de Bering, ces endroits inondés ne l'ont pas toujours été. Et donc les hommes ont vécu là. Vous savez que dans des dragages, il n'y a pas très longtemps, de la mer du Nord au large de la Hollande, on a sorti un crâne de Néandertal quand même. Et en plongeant au large de Vancouver, vous voyez, du côté du Bering, on a trouvé des pierres taillées à 50 mètres de profondeur. Donc ça veut dire qu'il y a une archéologie sous-marine là qui reste à faire.
Yves Coppens, vous l'imaginez comment, l'évolution de l'espèce, ne serait-ce que dans les siècles qui s'annoncent, même si c'est absolument rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité, parce que en ce moment, on parle de plus en plus de la digi-intelligence qui fait que les cerveaux de nos ados ont un fonctionnement différent d'une autre. Il paraît que quand on fait des IRM et qu'un ado travaille sur des tablettes tactiles, eh bien, il a la partie frontale de son cerveau qui s'éclaire d'une manière absolument incroyable à l'IRM, alors que vous dites, par exemple, chez moi, elle est crépusculaire quand on fait la même expérience.
Oui, pourtant, ce n'est pas loin, hein. Il se trouve que j'ai un garçon qui a 22 ans, donc entre lui et moi, il y a deux générations quand même. Je l'ai fait tard, c'est comme ça. Et en effet, son toucher, son côté tactile, fait que, comme tous les enfants de cette génération, moi aussi un petit peu, mais beaucoup moins, on pratique les écrans. Et quand on pratique les écrans, on les pratique en tapant des doigts sur un clavier, en tapant des doigts sur un écran qui vous révèle des merveilles, hein. C'est étonnant chaque jour. La manière dont ceci existe déjà et la manière dont ça se développe, moi je suis tout à fait admiratif et tout à fait pratiquant. Pratiquant dans la mesure de mes petits moyens, mais j'essaye de comprendre, de me développer et de faire ce que je peux. Alors il est évident aussi que, ne serait-ce que par l'expérimentation, que ceci ne va pour le moment, ne change pas la forme et le développement du cerveau. Mais pour le moment, en effet, c'est plutôt une question de localisation de l'activité du cerveau. C'est-à-dire que la localisation, elle se déplace. Le cerveau est très souple, hein, dans son organisation. Et c'est, comme vous l'avez dit à juste raison, la partie frontale qui travaille de manière préférentielle pour cette histoire de toucher des écrans. Mais ceci étant dit, le cerveau se développe bien sûr, et il y a longtemps qu'il se développe, au point que quand on étudie par exemple le cerveau de Lucie, on ne l'a pas, hein, mais enfin on a suffisamment du crâne pour reconstituer sa forme, pas le dedans, mais au moins le dehors, et on voit un certain nombre de circonvolutions, et quand on va de Lucie, 3 millions d'années, à nous aujourd'hui, le nombre de circonvolutions, bien que le volume ait augmenté, le nombre de circonvolutions, lui aussi, a augmenté. Oui. C'est-à-dire que c'est facile à comprendre, hein, quand un organe se développe, quand n'importe quoi se développe, dans un espace, dans un volume trop petit, il plisse, ça plisse. Actuellement, je vous donne un exemple qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé. Ma plaque africaine monte, c'est-à-dire que la Méditerranée, petit à petit, se réduit, et c'est ce qui fait d'ailleurs les séismes, par exemple, de Turquie, par exemple, de Grèce, par exemple, de...
C'est ainsi qu'on les explique.
Par exemple, de Croatie, par exemple, d'Italie, il n'y a pas très longtemps. Et l'Afrique passe sous l'Europe, il y a une subduction. C'est-à-dire que c'est sous l'Europe qu'elle passe et pas dessus. Et donc, elle passe dessous, mais elle passe mal dessous. Et quand on plonge au large de la Libye, entre la Libye et la Grèce, ça plisse. Le fond de la Méditerranée est en train de faire comme les Alpes, ça commence à plisser, ça commence à faire des plis parce que comme ça ne marche pas bien, comme ça ne glisse pas bien en dessous, ça plisse. Et je disais à mon fils, je le raconte souvent, quand il était petit, et je n'avais pas peur parce que sur le plan psychologique, ça aurait pu quand même le choquer un petit peu, je lui dis si tu ouvres ton crâne et si tu sors ton cerveau, pauvre gosse, vous rendez compte, dire des choses pareilles, et si ta maman le repasse, tu pourras dormir dedans. Parce que ça fera une très belle couverture.
Il n'y a vraiment qu'un père paléontologue qui puisse dire une chose pareille. En fait, Yves Coppens, votre plus belle découverte, elle n'a pas 3 millions d'années. Ce n'est pas Lucie. Non, votre plus belle découverte, elle n'a que 22 ans. C'est votre fils, Quentin. Est-ce qu'il va être paléontologue, Quentin? Non, il veut faire du droit, rien que du droit.
Oui, non, il ne sera pas paléontologue. Enfin, on ne sait jamais. Ceci dit, c'est très bien ainsi, d'abord. Je pensais que c'était très bien ainsi qu'il avait choisi, enfin qu'il avait choisi et aimé autre chose. Et je l'ai entendu une fois dire par hasard, parce qu'il est très discret, qu'en effet c'était pour un peu éviter de faire la même chose que celle que j'avais faite. Mais pour un vieil homme, faire un enfant à 60 ans, c'est extraordinaire. Pour moi, ça a été un grand, grand événement, je ne le cache pas, et un grand événement sentimental aussi, Une grande découverte, enfin, ça ne peut être que la plus belle découverte
voilà.
de l'existence.
Oui. Voilà, exactement. Je vous remercie infiniment, c'était absolument passionnant de se promener cet après-midi en votre compagnie. J'ose cette question, la Méditerranée, Yves Coppens, avant qu'on ne se quitte, dites-nous, elle aura disparu dans quelques centaines de milliers d'années, dans un million d'années ?
Un petit peu plus, oui. Oui, un petit peu plus, c'est peut-être une trentaine de millions d'années.
Bon, vous faites une promesse, nous nous retrouverons bientôt pour poursuivre cette conversation, Yves Coppens.
Merci, bien sûr.
À bientôt.